Alors, nous sommes depuis quelques semaines dans la première épître de Pierre. Donc, on va essayer de tirer quelques idées encore de cette épître. Je rappelle ce dont on avait parlé la dernière fois, au chapitre 2, versets 9 et 10, où il était écrit: Vous, donc nous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, on avait vu la dernière fois, et on va juste survoler ça, qu'en tant que chrétiens, nous avons hérité de certains privilèges. Et on avait vu l'opposition qu'il y a dans ce passage où il est dit « Vous êtes, donc c'est notre statut, afin d'annoncer. Vous êtes, et là il y a toute une liste de bénédictions, afin d'annoncer. » Notre vie annonce quelque chose, quelle qu'elle soit, qu'on soit chrétien ou pas. Notre vie annonce quelque chose. Lorsque vous avez quelqu'un qui est toujours colérique, qui se plaint en permanence, il annonce quelque chose à son entourage. Il ne peut pas le garder pour lui. Si vous avez quelqu'un qui est en permanence râleur, qui se plaint, il annonce quelque chose. Si vous avez quelqu'un qui est de bonne humeur, il annonce quelque chose. Si vous avez quelqu'un qui est dépressif, il annonce quelque chose. Il est dépressif et il annonce un message. Si vous avez quelqu'un qui traverse telle ou telle situation, et on peut le comprendre, si cette situation le contrôle, et ça c'est important de ne pas accepter ça, mais parfois les situations nous contrôlent, du coup nous annonçons les situations. Notre vie annonce quelque chose. À part vivre comme un ermite, et encore, même le fait d'être ermite annonce quelque chose. On le regarde la personne de loin et on dit, tiens, il annonce le fait qu'il ne veut pas être avec les autres. D'accord? Donc, on annonce quelque chose. On peut être malade et annoncer la maladie en permanence, parce que ça devient notre identité. Il y en a qui annoncent leur insouciance. Certains annoncent leur égoïsme. Certains annoncent la manipulation. Certains annoncent la violence. Certains annoncent la vieillesse. « Oh, je vieillis !» Alors, ils annoncent la vieillesse. Voilà, on annonce tous quelque chose. On a tous un message, en réalité. La question, c'est de choisir le message que nous voulons porter. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à annoncer Jésus-Christ. Et derrière ce message, ou cette personne, il y a ensuite, je dirais, des sous-messages, des sous-dossiers. L'amour, la joie, l'espérance, la justice. La sainteté, la vérité, la constance, l'intégrité. Et c'est ce que l'auteur essaye de montrer là aux chrétiens. Il ne nie pas le fait qu'ils traversent des tribulations, mais il les encourage à ne pas annoncer la tribulation. Dans le sens où, autour de cette tribulation, il pourrait annoncer la crainte, la peur, la trahison, le compromis, le défaitisme, l'incrédulité, le doute vis-à-vis de Dieu. Non, il leur parle de leur position. Il dit, vous êtes une race élue. Vous avez parlé la dernière fois du fait que le mot race, là, parle d'une descendance. Nous avons un ancêtre commun qui, pour le coup, n'est pas Adam, c'est Jésus-Christ. Nous sommes une race élue. Il est sûr que la descendance ou la race d'Adam n'est pas choisie par Dieu, elle n'est pas élue par Dieu du tout, elle est rejetée. En revanche, nous sommes une race élue, choisie, parce que nous avons pour frère aîné Christ. Nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Christ. Donc ça, c'est notre position, quelles que soient les situations. Alors, les situations sont difficiles. Des fois, elles nous empêchent ou elles tentent de nous empêcher de vivre notre position. L'autre fois, je regardais un reportage sur François Ier et... Il se trouve que, à l'époque, le royaume de France était puissant. Il y avait une opposition avec Charles Quint. Et à un moment donné, il y a une bataille entre François Ier et Charles Quint, entre la France et... Alors c'était à la fois l'Empire germanique et l'Empire d'Espagne, puisque Charles Quint y régnait sur toutes ces contrées. Et François Ier était fait prisonnier, il est resté plusieurs mois, je crois presque un an, prisonnier de Charles Quint. Donc il était enfermé, il a fallu que le royaume de France paye un tribut très important pour acheter le roi. Mais François Ier restait le roi, même en prison. Donc je ne sais pas quel a été son comportement, mais j'imagine qu'il devait assez souvent manifester par son comportement le fait qu'il restait le roi de France. Il n'était pas qu'un prisonnier, il était aussi un roi. Joseph, en prison, a manifesté le caractère de Dieu. Le message, c'était pas je suis un prisonnier. Le message, c'était je suis libre en Christ, même si évidemment il n'avait peut-être pas toute la révélation que nous avons, mais il était libre en Christ. Donc il n'était pas prisonnier, ce n'était pas son identité. Le piège dans lequel on peut rentrer en tant que chrétien persécuté, comme à l'époque et encore aujourd'hui dans certains pays, c'est de voir son christianisme qu'à travers le prisme de la persécution. J'ai rencontré des frères et sœurs anciennement dans les pays communistes, et on voit qu'ils ont été imprégnés par ça au point qu'ils en sont prisonniers de cette image-là. Du chrétien persécuté. Alors qu'en fait, Dieu, je peux comprendre, moi-même, je n'ai pas traversé ça de la même manière, donc je peux comprendre, je compatis, mais en même temps, je regrette, un chrétien n'est pas prisonnier, il n'a pas. L'amour parfait bannit la crainte. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et c'est la même chose pour nos vies aujourd'hui, au milieu des circonstances. On ne nie pas les circonstances. N'empêche que nous sommes une race élue. Donc, notre vie, elle est ce qu'elle est, mais nous sommes une race élue. Et du coup, mon discours, tout comme j'imagine qu'un roi de France qui est prisonnier ne se comporte pas comme un prisonnier ordinaire. C'est le roi de France. Il a une dignité, il a un message, il a une prestance, il a une lignée, il sait d'où il vient. Donc la situation, évidemment, elle n'est pas glorieuse pour lui, n'empêche qu'il demeure dans sa position. Et nous avons cette descendance que nous avons en Christ. Et lié à ça, nous sommes un sacerdoce royal. Vous avez dit... ce principe que dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas y avoir sacerdoce et royal en même temps. Ce n'était pas possible. Soit on était sacrificateur de la tribu de Lévi, soit on était la famille royale, tribu de Juda. On ne pouvait pas être les deux en même temps. Et lorsque Saül a tenté, à un moment donné, de lier les deux, en offrant un sacrifice alors qu'il était roi et non pas prêtre, Dieu l'a rejeté, parce que c'était interdit de faire ça. Par contre, parce qu'il ne vient pas non pas du sacerdoce de Lévi, on voit ça dans l'Épître aux Hébreux, mais du sacerdoce de Melchizédek, Jésus-Christ est prêtre et roi en même temps, parce qu'il n'est plus sous la loi de Moïse, la loi a été accomplie, il n'est plus sous la loi Jésus-Christ non plus. Donc Jésus-Christ a le droit d'être sacrificateur. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, là c'est une petite parenthèse théologique et factuelle, Jésus-Christ n'aurait pas pu rentrer dans le temple. Pourtant c'était la maison de son père, mais il ne pouvait pas y entrer. Parce que Jésus a vécu sous la loi. Et Jésus n'est pas lévite. Il ne fait pas partie de la tribu de Moïse, ni d'Aaron. Et donc, il ne pouvait pas entrer. Il est entré dans la cour du temple, mais pas dans le temple. D'ailleurs, on ne lui aurait pas permis, mais de toute façon, il n'avait pas le droit. Mais maintenant, il a le droit d'être sacrificateur, de remplacer la sacrificature d'Aaron. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchizédek. Mais ce qui est intéressant, et ça, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est que nous sommes nous-mêmes un sacerdoce royal. C'est-à-dire que nous avons reçu la même bénédiction que Jésus-Christ. Nous sommes à la fois dans une famille royale et nous sommes prêtres. C'est-à-dire qu'en tant que prêtres, nous avons le droit d'intercéder, tout comme le faisaient les Lévites. Mais en tant que chrétiens, nous avons une autorité, parce que nous faisons partie de la famille royale. Donc on a une autorité dans la prière. On a une autorité sur les choix qu'on a à faire. On n'est pas obligé d'être soumis à la chair. Nous avons reçu une autorité. Parce que, tout comme Jésus-Christ règne, il est le roi des rois, moi je suis aussi participant à cette famille royale, et vous aussi. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons une autorité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vivre dans la pitié de soi, ou dans une forme de misérabilisme chrétien. La vie est difficile. Mais elle peut être difficile pour les sujets, les valets, pour les esclaves, mais la vie peut être difficile pour les rois aussi. D'accord? Et nous assumons ça. Lorsqu'il y avait la peste pouvait toucher les rois, et il y en a eu. Et de la même manière, le Covid peut toucher tout le monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous perdons notre statut. Et nous sommes fiers de ce statut, de cet héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et donc, ensuite, et ça nous renvoie donc à Apocalypse 1:6, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et autre chose aussi, alors c'est intéressant, j'avais oublié de noter ce verset concernant l'autorité que nous avons. Et lorsque Paul en parle, il en parle à des Corinthiens qui, pour le coup, ne vivaient pas en fonction de leur statut. Hein, quand on voit la bagarre qu'il y avait au sein de cette église, les clans, le péché qui y régnait, il y avait aussi des doutes sur certaines doctrines. Mais Paul leur dit, parce que Paul les voyait en fonction de leur statut. Il avait une vision pour leur vie, c'était la vision de Jésus-Christ. Il dit dans 1 Corinthiens 6:2, pour bien montrer l'autorité que les Corinthiens pouvaient avoir sur le péché. Il leur dit, mais regardez comment vous vivez. Et il ajoute, ne savez-vous pas que ce sont les saints qui jugeront le monde ? Ça, ça parle de l'autorité. Et là, on peut se poser la question, ne savons-nous pas que ce sont les saints qui jugeront le monde ? On a tendance à oublier ça. Alors, évidemment, on ne va pas juger en se vengeant ou quoi que ce soit. On aura le caractère de Dieu pleinement en nous et on jugera en toute justice comme Dieu est juste. Mais considérez un peu l'autorité que Dieu veut nous donner et nous donnera. Nous allons juger le monde. Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance ? Sous-entendu, dans vos églises, là, bah, vous crêpez le chignon parce que vous ne savez pas juger correctement les choses, alors que vous, un jour, vous allez juger le monde. Et des fois, on peut se poser la question avec nos dirigeants, d'ailleurs. Ils ont autorité pour appuyer sur un bouton atomique, presque. Et puis, en même temps, des fois, ils ont des comportements tellement enfantins, on aura envie de leur dire, mais vous ne savez pas que vous avez une autorité quand même qui, où on a notre vie qui est entre vos mains et vous, vous comportez comme ça. Mais on peut se dire aussi entre croyants, des fois. Quand on sonde son cœur, on se dit, mais attends, je suis en souci pour telle ou telle chose. Alors que Dieu m'a donné une autorité extraordinaire, je peux prier, je peux intercéder, je fais partie de la famille royale, je suis accepté en Christ. Un jour, on jugera les anges, parce que Paul aussi en parle, on va juger le monde. Et c'est quand même extraordinaire, tout l'héritage que nous avons reçu. Et donc, il est important, parfois, de méditer à cela. Parfois, il faudrait qu'on rentre dans, on ne va pas le faire, mais de rentrer dans des familles chrétiennes qui se disputent, de couples, et on rentre, et vous savez que vous allez juger le monde et vous ne pouvez pas régler vos petits différends. Nous avons une position extraordinaire. On a l'impression qu'on passe dessus comme ça tous les jours. On oublie. Pourquoi ? Parce que le monde nous accapare. Mais en réalité, ou la chair parfois. Mais en réalité, nous avons une liberté extraordinaire. Et puis, nous sommes une nation sainte. J'avais parlé du fait aussi que la notion de sainteté parle d'acquisition. Hein, Dieu nous... En 1 Pierre 1,16, un peu plus haut, Pierre dit, il rappelle ce verset de l'Ancien Testament, « Vous serez saints car je suis saint. » Dieu nous a mis à part, on lui appartient. Et je parlais du fait que les Césars, les rois, les potentats, avaient des fois une caisse noire, je dirais, qui leur appartenait. Ils l'utilisaient à leur discrétion. Ils faisaient ce qu'ils voulaient avec. Ils avaient une somme d'argent qui leur était offerte, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Ben de la même manière, Dieu a acquis son peuple par le sang de Christ et il en fait ce qu'il veut en réalité. Ça lui appartient. C'est pour ça que nous sommes saints, nous sommes mis à part pour lui. Et lorsque je réalise ça, ça m'aide des fois un peu à obéir à Dieu. En disant que mon statut, il est là, ma position, elle est là. J'appartiens à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre, ensuite, va parler des conséquences que notre position suscite ou engendre. C'est qu'à partir du moment, je parlais tout à l'heure de François Ier, mais c'est valable, voilà, on connaît plein d'histoires comme ça, mais c'est valable pour les chrétiens aujourd'hui, parce que je sais qui je suis et ce que j'ai reçu en Dieu, ça va forcément avoir une incidence et des conséquences dans ma vie pratique. Il est important de méditer à ça. Et je ne vais pas voir tous les points, on terminera une prochaine fois, mais Pierre ensuite va comme mettre en application cette vérité dans plein de domaines de l'existence. Par exemple, le premier domaine, c'est un peu général, il part de la conduite du chrétien. C'est qu'à partir du moment où on comprend sa position, il y a une conduite. Un peu comme Louis XIV, je ne sais pas pourquoi là je parle des rois de France aujourd'hui, mais Louis XIV avait très tôt eu conscience qu'un jour il allait être roi. Tous les enfants le savent, hein, t'es l'aîné, tu seras roi. Il le savait, hein, de génération. Mais lui, très tôt, il avait compris que c'était une vocation, un appel sur sa vie, le fait qu'il soit né à tel moment, le fait qu'il ait telle position dans la lignée, ben, il savait que c'était à lui d'être le roi. Et dans son adolescence, il parlait comme ça, il disait « j'apprends mon métier de roi ». C'est-à-dire qu'il était conscient qu'il fallait qu'il apprenne ce métier. Il ne se posait pas de question de savoir ce qu'il allait faire de sa vie. Il savait qu'il allait être roi, mais il fallait qu'il apprenne. Et quand un roi devait apprendre à être roi, ben, il y avait plein de domaines qu'il devait apprendre, que ce soit l'économie, la politique, les affaires internationales, etc. Mais il y avait aussi des choses toutes simples, comment se comporter à la cour, comment se présenter. Enfin voilà, il y avait un comportement. Ben, les chrétiens doivent apprendre en fonction de leur position. Ils sont des témoins de leur statut, de leur position que Dieu leur a donnée. Et c'est ce qu'il dit au verset 11 et 12, là, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11 et 12, il est dit: « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que par là même où ils vous calomnient, » je rappelle qu'on était en pleine persécution, alors même qu'ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc là, il y a plusieurs choses que l'on voit. Tout d'abord, quand je réalise la position que Dieu m'a donnée, que je considère ce que je suis du point de vue de Dieu, ben, il y a une conséquence immédiate, c'est que je réalise que je suis étranger sur la terre. À partir du moment où je suis citoyen des cieux, je ne peux plus être citoyen de cette planète, de cette terre. Donc il dit, vous êtes étranger. Paroikos en grec, ça parle de quelqu'un qui est voisin d'une personne ou d'un groupe. C'est-à-dire qu'on est comme des voisins, on est des étrangers, on n'est pas dedans. On y est, on est là, mais on a simplement des relations de voisinage. C'est intéressant parce que quand on parle de nationalité, il y a des pays qui, par exemple, refusent la double nationalité. Si vous voulez adhérer, prendre la nationalité d'un pays, vous devez abandonner votre nationalité d'origine. En France, on permet la double, voire la triple nationalité, mais il y a des pays où ce n'est pas permis. Je sais que peut-être l'Allemagne encore, je sais, ou en tout cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais je crois qu'en Allemagne, ce n'est pas possible d'avoir la double nationalité. D'ailleurs, ça peut se comprendre, parce que si un jour les deux pays se font la guerre, vous allez choisir quel camp. Vous voyez, c'est à un moment donné, si on veut faire partie d'une nation, il faut choisir. Mais bon, voilà, ça c'est un. Du point de vue de Dieu, c'est radical, c'est qu'on ne peut pas avoir les deux nationalités. C'est-à-dire que je ne peux pas être citoyen des cieux et citoyen de ce monde. D'accord? Je ne peux pas dire, ah bah oui, mais dans le royaume de Dieu, on n'a pas le droit par exemple, de mentir, mais dans le monde, on a le droit de mentir. Mais comme j'ai la double nationalité, bah, je fais ce qui m'arrange. Ça ne marche pas dans le christianisme. Le mensonge est banni parce que je ne suis plus citoyen de cette terre, je suis citoyen des cieux. Je suis étranger à cette planète. C'est quelque chose. Et donc je dois apprendre à me comporter différemment. Il dit, vous êtes étranger sur la terre. Ça, c'est quelque chose dont on doit être conscient. Donc refusons la double nationalité. Double nationalité pour un chrétien, c'est hypocrisie. C'est que on trahit le maître, d'une certaine manière. Donc ça, c'est un point très important à voir. Et le diable fait tout, nous pousse pour qu'on vive cette double nationalité en permanence. Si on peut faire des compromis, ça l'arrange. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme, évidemment, on n'est pas dans les cieux encore, on est sur la terre. Si j'épouse la nationalité terrestre, je ne peux pas témoigner des cieux. La seule manière pour nos semblables de voir un témoignage du Dieu vivant chez les autres, c'est lorsque les autres, les chrétiens, vivent leur citoyenneté céleste. Donc, à partir du moment où je suis étranger sur la terre, mon comportement va avoir une influence sur mon entourage. Parce que les gens voient que je vis comme un étranger. Donc il ne faut pas avoir honte des reproches qu'on peut vous faire. « Ah, toi tu ne vis pas ça, t'es contre l'avortement, ou ah, tu ne veux pas mentir au chef, ou ah, tu ne veux pas... » Non. Alors ça peut choquer. Oui, mais où on est citoyen des cieux, où on ne l'est pas. Si on essaie d'être conforme à ce monde, on devient conforme à cette citoyenneté terrestre, d'une certaine manière. Et Dieu, du coup, ne peut pas approuver ce que nous vivons. Mais encore une fois, il ne faut pas le voir simplement en termes d'obligation légale, il faut le voir en termes de position, qui je suis. Tout comme un ambassadeur, d'ailleurs cette image d'ambassadeur est reprise par Paul aux Philippiens, un ambassadeur, il n'a pas honte de la nationalité qu'il a. Il est dans un pays étranger et en même temps il n'a pas peur de sa citoyenneté. Et non seulement il n'a pas peur, il n'a pas honte de ça, mais il est même là pour la représenter. Et donc à partir de ce moment-là, quand on comprend que nous sommes ambassadeurs et citoyens des cieux, ça devient un appel pour notre vie. On fonctionne d'une autre manière, on opère d'une autre manière. Et ça a quand même un bénéfice immédiat pour nous, parce que rappelez, quand on a lu le passage, il est dit de ne pas épouser donc le mode de vie de cette terre, parce que ça fait la guerre à l'âme. C'est-à-dire que ça nous fait du mal. Parce qu'il y a un sentiment de trahison, il y a un sentiment de duplicité, ça attriste Saint-Esprit. Tout comme j'imagine un ambassadeur, lorsqu'il commence à se mettre du côté du pays dans lequel il est, il ne doit pas être à l'aise hein, dans sa conscience, parce qu'il il trahit le pays qui l'a envoyé. Donc l'harmonie que nous recherchons tous, elle est possible lorsque on accepte d'être qui nous sommes en Christ. Donc j'accepte la position et je bénis Dieu pour tout ce que j'ai reçu de lui, une race élue, sacerdoce royal, voilà, on est content. Mais l'harmonie, elle se fait aussi dans le comportement ensuite. Alors le comportement ne donne pas la position, hein, sinon il n'y a pas besoin d'être régénéré pour ça. Non, je suis régénéré, j'étudie la parole de Dieu, je saisis toutes les promesses de Dieu et en attendant d'être un jour dans les cieux, j'épouse le caractère de Christ, j'embrasse le caractère de Christ, je manifeste le caractère de Christ et je deviens un témoignage pour mon entourage. Et il y a une harmonie dans mon être qui fait que mon âme n'est pas assaillie. Je suis peut-être assailli par les autres, ça c'est vrai, les chrétiens étaient persécutés, mais dans leur âme, il n'y avait plus la guerre. La guerre, elle était à l'extérieur. Donc la question parfois qu'on doit se poser, c'est où je veux la guerre, où est le champ de bataille ? Eh bien, il vaut mieux que le champ de bataille soit à l'extérieur et qu'il y ait la paix à l'intérieur, plutôt que d'essayer de trouver la paix à l'extérieur et être en guerre à l'intérieur contre le Saint-Esprit. Donc vous voyez, Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre harmonieusement. Ça ne veut pas dire que la vie est facile. Et encore une fois, les écrivains du Nouveau Testament ne sont pas sentimentalistes. Pierre l'a écrit à des gens persécutés. Imaginons que cette lettre soit envoyée, mettons, à des chrétiens dans un pays comme le Pakistan, où les gens sont persécutés, ou en Arabie Saoudite. Des fois, nous, à cause de notre sentimentalisme, on n'oserait pas écrire ça, en disant « Eh oh, t'es citoyen des cieux, aie un bon comportement ». Non, Pierre, lui, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il va même dire que, plus loin, Christ nous a donné un exemple, que lui-même a dû traverser ça. Ça fait partie, des fois, pour certains, de leur appel. Donc, ensuite, il est dit de vous abstenir. Là, ça parle de freiner ses envies. Et je préfère cette traduction, pourquoi ? Parce que ça ne met pas de côté le fait que j'ai gardé certaines envies. Vous voyez, je suis honnête, nous avons des envies, elles sont là, on n'est pas dupe, mais on met un frein à nos envies. Pourquoi ? Parce qu'on veut représenter le royaume d'en haut. Nos envies peuvent être diverses et variées, j'ai envie de mettre une tarte à quelqu'un, j'ai envie de lui crier dessus, j'ai envie de lui répondre, j'ai pas envie de lui rendre service, j'ai pas envie de lire ma Bible, voilà, on a tous des envies ou des non-envies. La non-envie étant une envie quand même. Mais on s'abstient, on freine. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Vous savez, un des pièges que le monde veut nous faire, dans lequel le monde veut nous faire entrer, c'est nous faire croire que l'hypocrisie, c'est quand on a deux pensées en même temps. Non, c'est pas ça, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quand je dis que ça c'est bien, mais que je ne fais pas. L'intégrité, c'est pas de dire ça c'est bien, et en plus j'ai envie de le faire, donc c'est harmonieux. Et là, des fois, on a un problème avec ça. On dit, ah ben, si je connais la vérité et que je n'ai pas envie de la faire, et que je la fais quand même, c'est de l'hypocrisie. Non. L'hypocrisie, c'est de dire, c'est ça qui est bien de le faire, et en cachette, je fais autre chose. Ou, en cachette, je pense le contraire. Ça, c'est l'hypocrisie. Mais par contre, le chrétien n'est pas dupe, il a de nature. Le chrétien reconnaît qu'il y a la chair et l'esprit. Il le confesse. Donc, si l'apôtre Pierre nous dit de nous abstenir de faire certaines choses ou de freiner nos envies, ça sous-entend qu'on en a encore des envies charnelles. Tout comme un étranger ou un ambassadeur qui vient dans un certain pays, il peut être des fois tenté d'adopter un mode de vie ou il peut être tenté peut-être de se soumettre aux demandes d'un homme politique ou autre, mais en tant qu'ambassadeur, même s'il a envie de le faire, de faire un compromis, il va s'abstenir de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la vérité et il sait que la vérité n'est pas en lui. La vérité, elle est dans l'ordre qu'on lui a donné, dans le mandat. Et bien de la même manière, nous savons que la vérité n'est pas en nous, je parle dans la chair. Donc on a des envies et alors ? On n'écoute pas. Et par la foi, nous obéissons. Et c'est comme ça que nous nous abstenons. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est je connais la vérité, j'ai les opportunités de faire le contraire, ma chair en a envie, mais au fond de moi, parce que je suis citoyen des cieux, et ça je le crois, je vis en fonction d'un royaume que je ne vois pas. Et donc je reste intègre, je marche par la foi. Vous savez, il faut avoir en tête un point, il est impossible d'obéir s'il n'y a pas la possibilité de désobéir. Je répète, il est impossible d'obéir s'il n'y a pas la possibilité de désobéir. C'est-à-dire qu'en permanence, la vie chrétienne, c'est faire des choix. Ce n'est pas d'être toujours en accord ou parfaitement en phase avec ce que Dieu nous demande, comme s'il n'y avait plus la nature pécheresse. Non. Nous, encore une fois, nous reconnaissons cette lutte. Néanmoins, nous honorons le mandat de celui qui nous a envoyés, qui nous laisse sur cette terre. Pour manifester son caractère. Donc on s'abstient. Je connais des chrétiens, hein, des fois, qui, sous prétexte qu'il faut être, vrai, ils disent ce qu'ils pensent. Non, surtout, ne me dites pas ce que vous pensez. Ne me dites pas, parce que ce n'est pas toujours bon. D'accord ? Dites-moi des choses à mon sujet, si vous voulez, plutôt que les dire à d'autres. Ça, c'est sûr. Mais si vous pouvez vous abstenir, c'est mieux. Si vous voulez régler un différend, venez me voir, mais surtout n'allez pas le dire aux autres, ça c'est pas bien. Mais s'il fallait qu'on dise à chaque fois ce qu'on pense, mais... Enfin, je veux dire, c'est insupportable pour les autres. Donc à un moment donné, il faut dire non Seigneur, je veux pas vivre dans l'hypocrisie, mais en même temps je veux vivre dans la maîtrise de soi. Maîtriser ma bouche, maîtriser mes choix, mon comportement. La maîtrise de soi. Et pour ça, je vais vivre par la foi. Je te crois, Seigneur, que c'est bien de faire telle ou telle chose, ou de ne pas faire telle ou telle chose, ou de ne pas dire telle ou telle chose. Donc, on s'abstient, et encore une fois, parce que ça nous fait la guerre à notre âme. Ensuite, il dit d'avoir une bonne conduite. Là, ça part d'une manière de vivre ou d'une apparence. Ça aussi, il y a des gens qui ne comprennent pas la notion d'apparence. Ah, il ne faut pas vivre selon les apparences, il faut que ça vienne du cœur, etc. Il y a des choses, des fois, il ne faut pas rentrer dans une forme de religiosité. Et c'est vrai. Néanmoins, et Paul en parle à Timothée aussi, donc ça s'adresse plus à des dirigeants, mais il dit qu'il faut qu'on s'abstienne de toute apparence de mal. C'est intéressant cette expression, parce que ça sous-entend que ce n'est pas forcément le mal en lui-même, mais c'est l'apparence de mal. Et pour ça, je vais vous donner un exemple vestimentaire ou lié à la mode. Lorsqu'il y a eu le mouvement punk en 77, les jeunes se faisaient des coiffures à la Iroquois, violet, vert, orange. Honnêtement, le fait de se teindre les cheveux, on peut déjà poser la question, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Bon, en plus, là, c'était des garçons qui faisaient ça. Mais en soi, qu'on ait les cheveux verts ou orange ou qu'on les garde nature, ça ne veut pas dire qu'on est des gens méchants. On est bien d'accord là-dessus, c'est des cheveux verts. Bon. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, ça renvoyait à toute une forme d'agressivité et de violence pour ceux qui ont connu cette période-là. C'est-à-dire que quand le mouvement punk est arrivé, je peux vous garantir que c'était à l'opposé du flower power et des hippies quelques années avant. Donc, se teindre les cheveux en vert, c'était pas anodin. C'était une apparence de mal. Ça envoyait un message. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans les EHPAD, parfois, où vous voyez dans la rue, vous avez des mamies de 70 ans qui ont les cheveux verts, orange, violet. D'accord ? C'est devenu courant. Mais c'est plus le même message. C'est-à-dire que, ben voilà, c'est devenu à la mode. Alors, ce sont les mêmes cheveux, c'est les mêmes couleurs, oui, mais ce n'est pas la même apparence. Et donc, il faut accepter, et pour ça, il faut mettre sa volonté de côté, d'accepter le regard qu'ont les autres sur des choses apparentes. Tout simplement parce que ma tenue vestimentaire, la couleur de mes cheveux, mes tatouages, tout ce que vous voulez, envoie un message. Ça envoie un message. Même si pour moi, dans l'absolu, on peut me dire « Oui, mais ça, c'est qu'un bout de tissu, ça, c'est qu'une couleur de cheveux. » C'est vrai. Dans l'absolu, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a un langage. Et on peut transposer, je n'ai pas d'exemple en tête, mais au niveau d'un mot. Par exemple, le mot « tabernacle » dans un certain contexte au Canada, c'est un blasphème, c'est une insulte d'une violence extrême. Nous, ce mot-là, on ne l'a pas dans notre vocabulaire. Ce sont les mêmes syllabes, alors ils utilisent le mot tabernacle dans le cadre biblique. Mais si vous voulez, c'est devenu aussi une insulte. Nous, pour blasphémer Dieu, il y en a d'autres mots. Donc ce sont les mêmes syllabes des êtres humains, mais ça n'a pas le même sens. Vous voyez, dans un contexte particulier. Donc on doit le respecter. Même si j'ai raison dans l'absolu, et on le voit aussi dans un autre contexte, lorsque Paul parle du fait de manger de la viande ou pas, etc. C'est à la fois, à chaque fois, d'avoir le souci de l'autre. Parce que, en fonction de ce que je fais dans un contexte particulier, même si j'ai raison, je fais du mal aux autres. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc l'apparence est importante, c'est pas de l'hypocrisie. L'apparence, c'est quand je cache en réalité, le mal qui est en moi, ça c'est un problème. Mais sinon, je suis obligé de reconnaître que, encore une fois, si je viens la semaine prochaine avec un pantalon rose et une veste orange et une casquette verte, vous allez avoir du mal à recevoir le message que je vais vous communiquer. Pourtant, je peux vous dire, mais le rose c'est une couleur que Dieu a inventée, c'est un pantalon, c'est décent, j'ai une veste, c'est la même que la semaine dernière, mais je l'ai teint en vert. Je veux dire, j'aurai des arguments en béton, mais vous allez me prendre pour un clown dans ce contexte-là. C'est comme ça. Donc, c'est pas parce que j'ai envie d'être libre et de porter ce que je veux que je vais le faire. Bon, j'ai pas forcément envie de faire ça. Mais, vous comprenez? Et moi-même, j'ai dû apprendre ça en devenant chrétien. C'est-à-dire que je dois pas utiliser ma liberté pour envoyer un message différent de ce que Dieu veut. Et donc, je dois faire attention. Et donc, lorsqu'il dit là qu'à chaque fois que les gens vont voir votre bonne conduite, ils remarquent quelque chose. C'est intéressant là parce que le verbe remarquer, ça parle de quelqu'un qui surveille. Vous n'avez pas remarqué que les chrétiens, on est surveillés des fois? Surtout quand on a annoncé évidemment la couleur, quand on a dit qu'on est chrétien et qu'on fait quelque chose qui ne l'est pas, ils ont un esprit de pharisaïsme hein, qui rentre. Oh, t'es chrétien et tu dis ça? Oh, t'es chrétien et tu fais ça? Mais parce que, c'est intéressant, des fois les gens ils font ça pour nous montrer ou essayer de nous prouver que notre religion c'est n'importe quoi, ou des fois parce que inconsciemment ou consciemment, on est un espoir pour ces personnes-là. Il y a peut-être possibilité de vivre autrement et les gens nous scrutent, ils nous regardent. Des fois ils nous regardent en disant comment ils font, on est comme des bêtes curieuses. Mais non, ils nous regardent attentivement et ils contemplent notre vie. Donc, si nous relisons le passage, qu'est-ce que nous pouvons dire? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs ou nomades sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Retenez-vous, elles font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Vous savez, pour moi, ça a été très clair quand j'enseigne ce semestre dernier sur les épîtres d'Hébreux et Jacques. Et si on prend Jacques avec Romain, vous savez, Jacques qui dit « montre-moi les œuvres », et puis dans Romain, on a l'impression que les œuvres, il faut presque les oublier. Il faut marcher par la foi. Mais en réalité, ça dépend à qui vous adressez ou à qui vous avez affaire. On ne peut pas se justifier devant Dieu avec nos œuvres. C'est impossible. On ne peut pas se justifier devant Dieu avec nos œuvres. C'est par la foi. On a confiance en Dieu, et comme Dieu connaît nos cœurs, je ferai un message bientôt sur le cœur de l'homme et l'intégrité du cœur, mais Dieu connaît notre cœur, donc on ne peut pas tricher devant lui. Il sait si on a confiance en lui, il n'a pas besoin de prouver par quoi que ce soit. En revanche, devant les hommes, ce n'est pas la foi qui nous justifie devant les hommes, jamais, ce sont les œuvres. Alors heureusement, ce ne sont pas les hommes qui vont nous sauver, mais quand je dis on a besoin de se justifier devant les hommes par les œuvres, c'est-à-dire que si je dis à quelqu'un que je l'aime, tout en lui donnant deux coups de poing, j'ai beau lui dire, tu sais, tu dois me croire, il va me dire, t'es gentil, mais je te crois pas. D'accord? Parce que mes œuvres contredisent ce que ma bouche dit. Et la personne qui est en face de moi ne peut pas sonder mon cœur. Donc, c'est par mes œuvres. Donc, c'est pour ça que Jacques, lorsqu'il s'adresse à des croyants qui se justifient en disant « Oh non, mais moi j'ai la foi », Jacques dit « Je veux bien, mais devant moi, montre-moi les œuvres. » Tu dis avoir la foi, mais l'homme, lui, ne peut pas regarder à la foi d'un individu. C'est dans le domaine de l'immatériel, de l'invisible. Donc tu dis que tu as la foi, bah, montre-moi les œuvres, parce que moi je suis obligé de regarder aux œuvres. On doit choisir un ancien dans une église. On doit regarder son comportement. Est-ce qu'il est marié d'une seule femme? Est-ce qu'il tient bien sa maison? Est-ce qu'il est adonné au vin? Il y a toute une liste. Parce que même si l'ancien vient nous... Enfin, le futur ancien dit, bah moi, Dieu m'appelle à être ancien, il faut vous me nommiez. On va dire, t'es bien gentil, mais ton comportement contredit peut-être ta profession de foi. Donc, entre nous, les œuvres sont importantes. Comment on va confier des responsabilités à quelqu'un? C'est, on sent qu'il a un don, la personne peut dire « Ah, moi j'ai le don de telle ou telle chose. » D'accord, mais montre-moi les œuvres de ce don, sinon ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est la même chose vis-à-vis des perdus. C'est-à-dire que les perdus regardent à nos œuvres. Ils ne peuvent pas regarder à autre chose. Ils ne peuvent pas regarder à notre foi. Ils ne peuvent pas regarder à notre sincérité intérieure. Ils regardent à notre vie. Et lorsque vous prenez l'exemple de Joseph, j'aime bien ces exemples-là parce que ce sont des croyants en terre païenne. Donc, d'une certaine manière, ils sont comme les chrétiens. On est en terre étrangère, nous aussi. Ben, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils constataient? Que ça soit Potiphar, que ça soit Pharaon, ils discernaient qu'il y avait la main de Dieu sur Joseph. Il se passait quelque chose. De la même manière, que ça soit l'eunuque ou Nabuchodonosor, ils réalisaient que Daniel avait quelque chose de particulier. Bon, ne parlons pas en plus de ce qui s'est passé dans la fosse aux lions. Mais par le comportement de Daniel, il y avait quelque chose là qui parlait. Et d'ailleurs, ce qu'ont essayé de faire l'entourage de l'empereur dans la cour, vous savez, avec le traquenard, là, avec la statue d'or, etc., c'était pour le pousser à faire soit une mauvaise œuvre, c'est-à-dire à faire un compromis. Et là, ils auraient dit, bah, alors tu dis que t'es croyant et t'adores la statue. Ou inversement, parce qu'ils n'adoraient pas la statue, c'est de dire au roi, ben voilà, il faut le tuer. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de trouver un piège lié aux œuvres. Et donc c'est en permanence ça. C'est-à-dire que notre vie est regardée. Et mes amis, c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir une vie qui compte. C'est un privilège d'avoir une vie qui peut avoir un impact auprès de notre entourage, nos voisins, nos familles, au travail. C'est un privilège, c'est une responsabilité, ça peut faire peur, et en même temps, ça montre que notre vie n'est pas inutile. Et c'est ce que pouvaient se poser parfois les chrétiens qui étaient en prison, ou qui avaient peur, qui se cachaient dans les... prenez l'exemple pour une histoire plus récente, dans le protestantisme français, lorsqu'il y avait les persécutions en Ardèche ou dans le centre de la France, et que les gens, ce qu'on appelle l'église du désert, hein, qui se réunissaient dans les cavernes. Donc vous adorez Dieu dans une caverne, Et puis après, vous retourniez au village, et là, il ne fallait pas faire de bruit, et puis pas exprimer sa foi. On pouvait se dire au bout d'un moment, mais à quoi ça sert cette existence? Mais par le témoignage de certains protestants, là, il y a des gens qui ont scruté leur vie. Ça a pu même aller, et c'est triste, c'est vrai, ça a été d'une grande souffrance. C'était peut-être le capitaine d'une galère française avec des protestants qui étaient en train de ramer au milieu des malfrats et des meurtriers. Et ben, ce rameur qui était en train de mourir, parce que quelqu'un qui était envoyé aux galères mourait au maximum, enfin au minimum, non attendez, il tenait maximum 3 ans. C'est-à-dire que 3 ans de galère, vous étiez mort, sûr. Et ben, pendant ces 3 ans-là, et il faut des fois souhaiter mourir avant parce que c'était pénible comme. Eh ben, vous aviez peut-être le commandant du navire ou tous les soldats ou les geôliers qui peut-être regardaient à la vie de cet individu qui opérait ou qui réagissait d'une autre manière que le meurtrier à côté qui avait été condamné aux galères lui aussi. Vous voyez, le témoignage de Christ peut s'exercer dans toutes ces situations. Et donc Pierre nous parle de notre statut. Donc c'est glorieux, c'est des bonnes nouvelles, on étudie ça. Puis après, il passe au côté pratique. Maintenant, vous êtes les témoins de votre position. Vous êtes les témoins de votre position. Et le plus beau témoignage, et là où le témoignage est plus prégnant, plus évident, c'est au milieu de l'adversité. C'est là que les convictions sont manifestées, c'est là que les certitudes sont annoncées, et c'est là que il y a le contraste entre le mensonge et la vérité s'opère, et nous devenons une lumière au milieu des ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Vous vous rendez compte? Nous sommes la lumière du monde. Donc mes amis, alors que pensons à ce texte, ne méprisons pas les possibilités que nous offre la vie pour témoigner. Mais là, je ne parle pas du témoignage de l'évangélisation, hein. Je parle du témoignage de notre vie. Je suis fils de roi, je suis co-héritier avec Christ, je suis un prêtre, il y a un sacerdoce royal, il y a une race élue ensemble, et en même temps, on est voyageurs et pèlerins sur la terre ensemble, d'accord, c'est vrai, mais on peut être ambassadeur. Et on peut être témoin. Oui, mais quand ça m'arrange, non, non, tout le temps. Quand c'est facile, non, même quand c'est difficile. Quand j'ai des envies, oui, même quand tu as des mauvaises envies, tu peux continuer d'être un ambassadeur. Tu peux avoir la maîtrise de toi. Tu peux être sobre. Et donc tu peux freiner tes ardeurs et t'abstenir de faire certaines choses. Et avec la puissance de l'esprit, c'est possible. Avec un esprit doux et humble, et dans l'humilité, on peut faire de grandes choses. On voit Joseph qui s'est plié aux circonstances, et pourtant il y avait une autorité sur sa vie. Et d'une certaine manière, on peut dire, on sait que c'est Dieu qui a conduit toutes choses, mais je parle au niveau des choix qu'il a fait. Joseph a conduit sa vie. Il a conduit sa vie. Il a refusé de vivre selon le train de ce monde. Il a refusé les avances de la femme de Potiphar. Il a refusé de se venger. Il a refusé, plusieurs fois d'ailleurs, même avec ses frères. Il a refusé tout ce que ce monde propose. Venge-toi, triche, profite, sois amer, sois coléreux, aie de la haine. C'est ce que le monde et le diable et sa chair, sans doute, voulaient lui proposer. Mais Joseph, il a vécu selon ses principes. Il avait reçu une vision, il avait eu un rêve. Il savait, et il le dit à la fin d'ailleurs, que c'est Dieu qui l'envoyait en Égypte pour sauver un peuple nombreux. Il était conscient de ça. Et c'est grâce à la maîtrise de lui-même, il s'est abstenu d'opérer selon le train de ce monde, et il a marché par la foi selon les rois du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce royaume invisible a été rendu visible auprès de ses frères. Les promesses de Dieu faites à Abraham étaient en train de s'accomplir, la fidélité de Dieu, même en temps de famine, la puissance de Dieu sur ses enfants au milieu de terres païennes. Les Égyptiens ont vu ça et ils ont été bénis par association, parce qu'ils ont vu cette bénédiction. Et donc la vie de Joseph n'a pas été inutile. la vie de ces chrétiens persécutés n'était pas inutile. C'est ce que Pierre veut montrer. Et on va voir plus loin qu'il va parler ensuite du couple, de la famille, il va parler du citoyen, il va parler de toutes les facettes de l'existence où à chaque fois le chrétien peut manifester la vérité.